créés dans les ateliers de la nuit. Comment donner à entendre des êtres muets, des créatures qui n'émettent que des ultrasons, qui vivent dans l'obscurité et qui commencent à vivre essentiellement la nuit. Sans y penser, nous sommes pourtant entourés. Nos nuits sont habitées. Nous les appellerons belles de nuit. Elles ont des robes ou des ailes, on peut imaginer qu'elles paradent. Dans le film de René Clair de la fin des années 50, les belles de nuit, autour de Gérard Philippe, sont des femmes toutes plus séduisantes les unes que les autres, qui viennent hanter ces nuits, ces rêves. Mais le rêve virera assez vite au cauchemar. Il faut se méfier des beautés obscures. Il faut se méfier de la nuit. Les belles de ce soir, les chiroptérologues le savent, ne sont pas forcément dociles. Elles ont d'ailleurs des noms différents selon les caractères. Il y a le murin de Daubenton, le grand murin, la grande noctule, la noctule commune, la pipistrelle, l'oreillard, qui, elle, se caractérise par de petites ailes et de grandes oreilles. L'oreillard des Balkans, à vous de vous faire l'image. Le rhinolophe, qui a de très grandes ailes, dans lesquelles elle s'enveloppe pour dormir, ce qui la fait ressembler à un parapluie. Il y a aussi le petit rhinolophe, le grand rhinolophe, ou la roussette égyptienne. Les belles de nuit, sachez-le, raffolent du grillon frais, des grottes et du noir. Les voilà volant autour de vous. Attention aux oreilles, aux cheveux, aux robes, aux manteaux dans le vent. C'est une tragicomédie radiophonique entre Batman et le bal des vampires. Belle de nuit de Pauline Horowitz, réalisation Angélique Thibault.
Petit rhinolophe, 100 mètres.
Si vous voulez pister une autre, c'est pas compliqué. Vous dites, là, qu'est-ce que ça vous dit là? Si je vous dis, vous êtes ici, vous voulez aller là, qu'est-ce que vous allez faire vous? Alors, vous mettez là.
Je vais marcher, enfin, je vais éviter la table et enfin, je vais faire comme ça.
Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous avez fait le tour?
Oui.
Bon. Si vous travaillez sur la loutre, en tant qu'être humain, vous allez faire le tour?
Ah, vous voulez dire que la loutre, elle passe sous
elle
la table?
Elle passe là.
Oui, mais c'est-à-dire que n'étant pas une loutre, j'avais pas trop envie d'escalader.
Mais oui, mais quand vous pistez une loutre...
Ah oui, vous voulez dire qu'il faut suivre là où la loutre passe?
Bien sûr.
Ça y est, je viens de comprendre.
C'est-à-dire que, à cette saison, j'ai pas envie de piser. Cette saison, il faut que je fasse du lard. J'ai pas bouffé, j'ai faim. Où vais-je trouver du lard? Et là, vous trouvez. Moi, quand je pisse du blaireau, je suis un blaireau.
Noctule commune, 22 kHz.
Ne photographiez jamais la première. Jamais.
Pascal, vous l'éblouissez, vous y en collez plein la tête.
Si vous claquez la première, c'est fini, ça sort plus. Voilà.
Est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle vient?
Oh, c'est très discret, hein, vous savez, ça rentre, ça sort. Il faut être présent quand elle rentre, il faut être présent quand elle sort, parce que autrement, vous ne voyez rien.
Ça me tue, ça. Il y a deux petits gamins qui voulaient rentrer dans le musée. Bon, 2,10€, ils peuvent pas. Et là, ils rentraient de l'école, ils voulaient faire juste un tour dans l'expo crotte à l'heure. Ils sont partis piteusement. Ça me déplaît, ça. Je veux dire que c'est...
Vous avez quel âge?
10-12 ans. Mmh. Et là, ils venaient vraiment pour crotte à l'heure. Ils venaient pas pour... Ils sont partis avec leur gros sac de classe.
C'est-à-dire 2,10€, tu viens pas pour juste le faire.
Pas 5 minutes.
Ouais.
Là, il faut que ça, c'est la carte blaireau. Ouais. Ils prennent la carte blaireau, ils reviennent quand ils veulent.
J'ai commencé par les orchidées, puis j'ai travaillé sur la loutre, sur le castor. Et je pense que pour les chiroptères, ça vient du fait que j'habite juste à côté du château de Trévarez. Et où il y avait un enjeu important.
Oui, alors, donc l'écolocation chez les animaux, c'est pour voir des objets.
Dans certaines situations, notamment dans des eaux turbides ou dans des situations où la lumière ne se propage pas, c'est-à-dire la nuit principalement, beaucoup d'animaux utilisent le son pour les aider localiser les objets dans l'espace et bien sûr à voler dans une forêt sans se prendre une branche par exemple. Donc l'écholocation, donc l'animal émet un son très focalisé, c'est comme une lampe torche que vous allumez pour voir la nuit. Donc un cachalot, à partir du moment où il va vous détecter, va focaliser les ondes sur vous en tant qu'objet pour pouvoir identifier ce qu'est l'objet. Et si possible, voilà, vous évitez dans ce genre de situation de vous faire passer pour une proie. Parce que le cachalot reste un animal carnivore. Et vu sa taille, se faire écoloquer déjà peut vouloir dire que vous le mettez en appétit.
Les grillons, c'est par là, c'est ça?
Les grillons étaient là, mais il y en a là aussi.
Il y en a là.
Et là, on a les petits insectes-feuilles. Et les marrons sont ceux qui viennent juste de naître. Ils sont très excités. Ils ont mis presque aussitôt après, ils deviennent verts.
D'accord.
Et là, on a des petits rats. Ils nous servent pour nourrir la vipère.
Ah oui.
Et là, il y a tous les élevages de vers, vous allez les reconnaître,
oui,
qui servent à nourrir les chauves-souris.
D'accord.
Alors, ça s'appelle des ophobas, c'est un très gros ver de farine. On voit la tête et puis il y a des pattes en dessous, c'est pas un ver vraiment.
Ah oui.
C'est parfaitement équilibré, il y a les vitamines, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir garder la chauve-souris sans problème. Si on lui donne les vers de farine, les vrais, les petits, elles perdent leur poil, donc il faut rajouter des vitamines. C'est complet, comme les grillons qui sont élevés aux croquettes pour chiens et chats, je ne sais pas si vous avez vu.
Non.
On va lui dire bonjour au piton.
Ah,
lui, il est timide, il est toujours un peu... il se cache la tête plutôt que... Je vais nourrir les crapauds, donc...
Parce que moi, elle est habituée à moi, et normalement, ça devrait devoir sortir, mais c'est une bête assez timide. Là, si vous attendez jusqu'à ce qu'elle se réveille et qu'elle sorte, ça peut varier entre 10 minutes et un quart d'heure. Donc elle est en léthargie profonde, son cœur ne bat presque plus. Les fonctions vitales sont tellement ralenties qu'on pourrait la croire morte si on la prenait en main, elle est toute froide. Vous repassez de 6 degrés à 37, on n'arrive pas, on a beaucoup de mal. Généralement, quand on est à 6 degrés, c'est qu'on est quick, c'est fini. Alors, celle-ci, elle est en pension depuis plus de 3 ans. Elle a eu une atrophie d'une elfe, elle a une aile toute courte. Est-ce que tu es caché, Kiki? Oh, col mignon, regardez ça. Ça roupille gentiment. Et là, elle est en train de se réveiller doucement. Elle se demande bien ce qui va lui arriver, rien du tout. Et celle-ci, elle a dû chasser à pied pour survivre, parce qu'elle ne peut pas chasser en volant. Elle vole comme pourrait courir un unijambiste, c'est-à-dire pas bien. Le grand murin qu'on a confié à un autre centre de soins plus spécialisé pour du long terme avait été victime d'une intoxication suite à des dégazages de pneus. Donc quelqu'un met un feu à une pile de pneus, ça fait des vapeurs très toxiques, et on en a trouvé une dizaine qui étaient mortes, et dont un qui survivait difficilement. On l'a lavé, on l'a nourri, il a quelques problèmes neurologiques, mais il survit. Hop, voilà. Et là, quand elle va se réveiller, d'ici un petit moment, il faut qu'on coupe la lumière, parce que c'est des bêtes qui n'aiment pas la lumière, donc si on laisse la lumière dans la boîte, elle sait que... Alors, je vais appeler la dame qui l'a reçue en centre de soins pour savoir comment ça se passe.
Ça va en finir.
Non. C'est la meilleure en France sur les soins. On s'entend très bien. C'est formidable.
Alors, d'abord, la technique, j'ai changé votre technique en une autre technique, donc il a fallu qu'il comprenne.
Oui.
Alors, je lui décroche un pied, il décroche l'autre pied et il passe dans le plateau.
D'accord.
Et puis après, il passe sur la balance, il mange assis dans le plateau.
Oui.
Alors, il boit à la cuillère de façon remarquable. Il a bu beaucoup, beaucoup. Hein. J'ai l'impression qu'il buvait pas assez.
Il buvait énormément. Je lui donnais à peu près 3 centilitres par jour.
Là, moi, j'ai mesuré. À chaque repas, il avale 0,2 grammes.
Ah oui, ouais, d'accord, non, ça fait quand même beaucoup. Hein.
Oui, c'est énorme. Ouais. Bon, enfin bref, une chose qui m'intrigue quand même, c'est que, bon, ça, je me suis payé une Blackbox.
Oui.
Bon, alors les autres, quand elles sont réveillées, elles se mettent à bavarder, elles me racontent des choses.
Oui.
Et lui, il dit rien.
Alors, il est pas muet tout le temps. Calez-vous sur 28 kHz, c'est normalement. De temps en temps, il émet.
Oui, mais très peu.
Très peu, il fait des petites trilles. Et moi, je ne sais pas s'il est devenu sourd ou aveugle. Parce qu'il est, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais il culbute, il a vraiment des problèmes d'équilibre.
Non, non, non.
Mais de moins en moins. Mais quand je l'ai eu...
Hier soir ou ce matin, il est parti à quatre pattes sur la table et il est bien parti.
Ouais.
Il mange assis dans le plateau que je lui ai donné. Et il se met... Alors, il s'accroche avec les pieds et la tête légèrement surélevée sur le bord, vous voyez.
Bon, bah écoutez, c'est bien.
Alors, j'ai senti un peu les dents quand je les manipulais.
Ouais, mais il ne mord pas fort, il fait attention.
Non, non, je lui ai dit d'ailleurs que ça n'allait pas, que c'était pas comme ça qu'on allait s'entendre. Il n'a pas insisté d'ailleurs.
Oui.
Bon, il a compris, hein. Je vous dis, on s'est organisé, quoi.
Bon, bah écoutez,
alors,
c'est très bien.
Alors, je lui donne son antibiotique, ça va.
Oui.
Pour l'instant, je ne vais guère donner autre chose que des verres de farine. Les larves de thym, il va pas l'air de trouver que c'est un peu élastique.
Puis ça doit être nouveau pour lui, donc il faut qu'il s'habitue
aussi.
Oui,
il a un peu tiqué.
Ouais.
Les coléoptères, il n'a pas l'air de trouver ça délicieux. Bon, les adultes, vous voyez.
Oui. Et moi, j'avais essayé du zoophobas adulte, il avait rejeté tout de suite. Hein. Il était baissé du dur, hein. Mais l'odeur, rien qu'à l'odeur. Il a même pas mordu dedans.
Non, là, les petits n'ont pas encore d'odeur. Quand j'ai des ténébrions molitures
adultes, quand ils sont frais, ouais.
Quand ils sont noirs, je leur donne pas d'avoir c'est vide.
Et même l'odeur, il a même pas croqué dedans,
oui,
il a détourné la
l'odeur
tête.
L'odeur déplaît. Mais avant qu'ils soient noirs, ils n'ont pas d'odeur.
Oui.
Donc, ça marche.
Bon, bah écoutez, merci.
Alors, une chose que je l'ai signalé
à ma mère,
je sais pas si elle vous l'a dit, mais moi j'ai été un peu choquée par la réaction de certains.
Ouais, et des fois j'ai filmé, elle avait un doigt de pied, tu vois, et l'autre était en l'air comme ça.
C'est un peu sentimental comme émission. Alors, je m'appelle Morgane, je fais de la recherche au niveau de la bioacoustique et le système sensoriel des chauves-souris et des mammifères marins. C'était pas vraiment une grande passion au début, et j'ai commencé à trouver le fait qu'elles arrivent à se représenter le monde par le son. Super intéressant, et que finalement c'était pas qu'une bestiole, c'était vraiment un miracle de l'évolution, et c'est un outil de physique très performant.
Murin de Daubenton, 58 kg.
Quand vous entendez une chauve-souris et qu'on fait l'analogie avec le monde sous-marin, vous avez l'impression en fait d'entendre une baleine qui vole. Parce que vous avez ralenti le son, ça donne des fréquences beaucoup plus graves qui sont en général émises par des animaux qui ont un très grand coffre, on va dire, de production sonore. Et voilà, ça vous donne l'impression que ces animaux, en fait, sont énormes. Hein, quand vous faites l'analogie avec le monde sous-marin, hein, si vous arrivez à transposer des hautes fréquences inaudibles vers les basses fréquences, voilà, vous avez une richesse. Hein, donc ça ressemble à... C'est comme si vous étiez sous l'eau. En fait, moi, c'est la pression que ça m'a donnée la première fois que j'ai entendu ces signaux de chauve-souris, ce qu'on appelle en mode expansion de temps, donc rejouer au ralenti, hein, 10 fois. C'est comme si vous multipliez par 10 la taille de la chauve-souris. Il y a d'autres systèmes, bien sûr, qui existent. Hein, c'est de se caler un canal de fréquence, hein, donc par exemple à 20 kHz, et je vais essayer de percevoir tout ce qui va émettre du son autour de 20 kHz, et donc il y a des méthodes qui permettent de transposer dans le domaine fréquentiel ces 20 kHz et de pouvoir les rendre audibles. Donc cette fois-ci, on a un signal qui est temps réel, donc on peut se mettre en contact direct avec les ultrasons à travers un bas détecteur. Ça vous donne une autre manière d'écouter ces ultrasons, et en particulier vous conservez la rythmique d'émission de ces sons. Vous changez de tonalité, en fait, mais vous conservez la rythmique.
Viens là. T'es tout énervé. Attends, calme-toi. Calme-toi. Donc, donc là, elle n'a pas beaucoup mangé. Et donc là, ce qu'elle cherche, c'est à manger. Je vais faire un retournement complet. Hop, comme ça sera plus facile. Elle veut pas se... Elle n'est pas très très coopérative aujourd'hui. Généralement, quand on la gratouille, ça va mieux. Alors, c'est une femelle. Et donc, les femelles sont grégaires. Et là, si on met un micro tout près, normalement, ça ronronne comme un chat. T'as déjà posé ton doigt sur une chauve-souris pour voir ce que ça fait comme effet. Ça vibre. Pour les prises de son, elle fait un bruit qui est à peu près équivalent à...
Alors, c'est très marrant, on dirait un peu un néon, en fait.
Ouais, c'est une surtension électrique.
C'est ouais,
un
ouais.
C'est comme un chien qui aboie, c'est comme un chat qui miaule, c'est le bruit du Grand Murin. Et il émet tout un tas d'informations. Et il y a des cris de détresse, il y a des cris... Là, c'est des cris d'excitation ou de dérangement, on va dire. Ça fait reculer un chat. Ça pulse fort. Ah oui, mais tu veux rentrer. Je suis cinglé. Bienvenue qui sauve. Bah c'est... Et des fois, il est beaucoup plus bavard. Là, vous trouvez...
Il y a peut-être un peu de dire.
Je vais remettre sa boîte parce que là, il n'y a pas de goût. Elle veut pas. Allez, hop.
On l'a trouvé blessé devant la cathédrale d'Angoulême. Alors, c'est pas nous. Ce sont des personnes de la région qui l'ont transmis au centre de soins qui se trouve dans la région d'Angoulême. Et donc là, ils l'ont soignée. Et elle avait une fracture à l'avant-bras. Et cette bête ne volait pas, leur posait problème. Et donc déjà, c'est qu'ils n'avaient pas repéré que c'était une grande noctule. Et donc, ils l'ont transmis à Madame Chacheduc. Et Madame Chacheduc l'a ramenée chez elle en Touraine. Et quand elle arrive en Touraine, elle a dit « Cet animal n'a pas le comportement d'une noctule commune, c'est une autre espèce ». Et donc elle nous a contactés et on a vu que c'était une grande noctule. Mais dans sa petite maison, les pièces sont trop petites parce qu'une grande noctule a besoin d'un grand espace pour pouvoir voler. Et c'est pour ça qu'elle nous l'a retransmis ici à Bourges. Et la transmission s'est faite en gare de Vierzon, au niveau du buffet de la gare. Madame Chacheduc était quand même une dame âgée, hein, qui me transmet une boîte à chaussures. Tout le monde nous regardait dans le buffet. Je soulève la boîte, puis je dis oui, c'est bien ça, c'est une grande noctule. Bon. Puis après, elle me transmet la nourriture, donc une bouteille de Volvic pleine de verre qu'elle me donne. Et alors, les gens qui étaient dans le bar vraiment se demandaient que faisaient ces deux personnes à se transmettre ces animaux bizarres. Et ensuite, Madame Chacheduc m'a dit, quand vous allez la nourrir, prenez des gants de cuir et des pinces. Mais j'ai vite compris, quand la grande noctule est arrivée à la maison, elle était arqueboutée dans sa boîte, une grande gueule ouverte. Elle a arraché le verre de la pince, mais avec vraiment une hargne. Et il a fallu quelques jours pour qu'elle s'habitue. Et ensuite, j'ai pu à nouveau la nourrir à la main, comme on fait habituellement.
Et on ne peut pas nourrir une chauve-souris avec de la pâté pour chien. Et ça mange. Un grand murin mange 10 grammes de grillons. Ça fait une vingtaine de gros grillons adultes. Un grillon qui est resté dans la boîte pendant une journée, elle n'en veut pas. Elle ne fait que manger du grillon frais. C'est tant que c'est frais, c'est bon. Et après, c'est en fonction de leurs affinités et changement de régime alimentaire. Il faut toujours commencer par ce qu'elles aiment le moins, comme avec les enfants. Sinon, elles mangent que des babas au rhum. Et puis après, quand on donne l'assiette avec les haricots verts, ils n'en veulent plus. Mais ceci dit, les morieux, il y a tout dedans. Donc ces gros verts sont idéales. Ouais. Ah, je suis désolé. Je pense que là, il faut que je réponde parce que c'est quand même le congrès. Oui. Oui, Carole. T'as fait passer le message à Michel qui a son portable coupé comme d'habitude. Ah, t'es à l'amphi du muséum. Il y a quelque chose à l'amphi du muséum ?
Moi, je pense aussi qu'il faudra réévaluer tout ça au fil du temps. Moi, je marque depuis 20 ans des baleines. Bon, c'est pas une chose, mais il y a 20 ans, quand on a commencé il y a 15 ans, on avait des balises qui faisaient la taille d'un ballon de rugby. Et donc, ces balises étaient fixées avec un harpon dans la baleine. Au bout de quelques jours, 4-5 jours, le harpon s'arrachait à cause de la traction des déplacements. Maintenant, on a des balises qui font la taille du petit doigt, qui rentrent dans l'art de la baleine, elle ne réagit même pas à tout. Qu'est-ce qui sera des transpondeurs? Qu'est-ce qu'il en sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Peut-être que ce sera rien du tout, peut-être... je ne sais pas.
Ouais, non, là, simplement pour demander à Eric... il me semble que toi, tu bosses sur les analyses génétiques de guano. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où ça en est, si tu peux nous donner un peu l'avancée de tes recherches?
Non, il n'y a pas eu d'avancée.
Ce que j'aime vraiment beaucoup avec la chauve-souris, c'est le contact avec l'homme. C'est ce côté-là, mettre l'homme avec l'animal. Enfin, l'animal avec l'animal, on va dire, c'est ça.
Entre autres là-dessus.
Puisque l'homme est un animal, hein, ne l'oublions pas. C'est un mammifère, on est entre cousins en fait, c'est ça.
Parce que depuis que l'homme a commencé à squatter les grottes, on va dire, bah, il était déjà avec les chauves-souris. Et il y a une histoire commune, il y a un lien.
Allez, il est à fond des chauves-souris. Pourquoi la chauve-souris?
Je m'appelle Jean-Yves Courtois, j'ai 59 balais. Je suis la chauve-souris depuis 20 ans et je proviens de la mouvance Péléo. Et pas naturaliste. Donc, alors sachant que très souvent les chiroptérologues viennent de la mouvance naturaliste et n'ont pas forcément eu historiquement des bons rapports avec les spéléos. Mais ça va.
Vous avez dû tomber sur des chauves-souris dans les grottes, j'imagine, et c'est là que. Enfin...
C'était pour élargir le terrain de jeu. On sait c'est encore, s'il n'y a pas beaucoup de grottes, donc c'était intéressant de faire autre chose que quelques grottes, de travailler sur les chauves-souris. C'était terrain incognita, il y avait beaucoup à faire. Donc voilà, ça a été le biais par lequel on est rentré.
Alors Guy, je suis de Bretagne, 56 ans, et je suis au réseau mammifère de l'ONF et également membre du groupe mammalogique breton. Et puis un jour, il y a des gens qui m'ont demandé l'autorisation de rentrer dans une cavité souterraine en forêt, dans une ancienne mine, parce qu'il y avait des chauves-souris. Alors je me demandais bien de quoi ils parlaient, quoi. C'est quoi cette affaire? C'est arrivé comme ça. Et petit à petit, j'ai aussi découvert qu'il y avait des chauves-souris dans les arbres. Et dans les arbres dont je m'occupe, dans mon métier, quoi, de forestier. Alors là, j'ai encore regardé ça d'un autre œil. Et maintenant, je m'occupe de la base de données enquête chauve-souris dans les arbres.
Grosse passion pour les bêtes depuis tout petit, hein, à quatre pattes à regarder les fourmis. Et la chauve-souris, c'est un peu la petite bestiole inaccessible. C'est le truc qui vit la nuit, qui a des mœurs étranges. Du coup, quand on commence à s'intéresser à la nature, bah, c'est un peu le petit côté challenging, quoi. Ça fait partie de ces espèces un peu cryptiques, discrètes. Et je me rappelle, ça avait commencé quand j'étais en seconde, j'avais trouvé à la bibliothèque un vieux guide. Enfin, même pas un guide, un espèce de descriptif des chauves-souris de France qui doit dater des années 30, assez petit, et qui était essentiellement des formules dentaires, parce qu'avant on tuait les chauves-souris pour les étudier. Et puis après, lecteur de la hulotte, donc le numéro sur l'oreillard, etc. Et puis finalement, j'ai essayé d'en faire mon métier. Quoi.
Là maintenant, on fait une console à lui, qui sort de ce côté-là, et qui sort de ce côté-là, c'est grand vent qu'on l'appelle.
D'accord.
Parce que les gens, les Suisses, ils ont mis ça sur des grands pilots, des grands poteaux d'ouvrage, et puis avec le vent, ça a bougé.
En 2003, là, c'est sur la façade de ma maison. Là, il y a trois gîtes comme ça, des petits là-bas, des petits, qui sont côte-côte. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Il faisait trop chaud, elles n'avaient pas trop de... Là, elles étaient bien quand même, mais il manquait d'humidité. Qu'est-ce qu'elle a fait, la chauve-souris? Eh bien, ils urinent sur les parois du gîte extérieur pour avoir de l'humidité. Là, on voit là, tout ça là, c'est trempé d'urine. Et là, celui-là, on voit un petit peu aussi. Celui-là, on ne voit pas, parce que celui-là, il est moins occupé. Et donc, elles exploitent leur urine pour avoir de l'humidité. Pour avoir l'humidité, soit pour rafraîchir par évaporation, quoi, et aussi pour ne pas qu'elle se déshydrate. C'est tout, c'est tout simple. Hein. Bon, ça, c'est des opérations que j'ai fait au fil des années, parce que moi, ça fait... Oh, ça fait combien? Ça fait 30 ans que je suis là, dans le système, quoi, dans notre système des gîtes, quoi. Donc on modifie, on rajoute, on fait des entrées latérales, on fait des entrées inférieures. Donc là, elle rentre latéralement, là, elle rentre latéralement, là, elle rentre inférieure. Je vais vous l'expliquer. Voilà. Ça, c'est un gîte spécifique. Ça, c'est ce qui s'appelle le multilogette. un peu le gîte de luxe que j'appellerais, quoi. Multilogette, parce qu'il y a une logette là, une logette là, une logette là, une logette là, et une logette là. Je dis toujours, enfin ça, là, vous allez me flanquer le micro sur la tête, je dis de toute façon, les chauves-souris, c'est comme les femmes, c'est elles qui choisissent. C'est elles qui choisissent, vous pouvez leur proposer n'importe quel gîte, ils n'en ont rien à faire, il faut que ça leur convienne. Si vous êtes pas dans la... Si vous leur offrez une bague en plastique, elles prendront pas. Et un système de peigne à l'intérieur qui font entonnoir, donc qui éjecte les crottes et qui éjecte les cadavres aussi. Et entre chaque cloison, il y a des trous. Donc les bestioles, pour pas qu'elles soient prisonnières, elles ont un chemin transversal à cette hauteur-là. Donc personne ne peut rester cloisonné là-dedans.
Très bien.
Voilà. Donc là, sur des passages de rivière, de trucs comme ça, avec une route qui passe tranquillement dessus, il y a, mettons, 4 mètres de remblai en dessus, quoi. Là, on peut poser des gîtes. Là, si on pose un gîte, s'il y a des routes qui passent en dessous ou des routes qui passent en dessus, c'est comme envoyer ses enfants jouer sur l'autoroute. Vous n'êtes pas sûr de les récupérer le soir. Hein, on est d'accord. C'est comme ça que je vous dis ça.
Je m'appelle Émilie, j'ai 24 ans et je suis étudiante aux Beaux-Arts de Bourges. Ma rencontre avec les chauves-souris, ça a été un peu particulier. Il y avait un bas de sauvetage à réaliser à 30 minutes de la ville. C'était une sérotine qui était blessée par un chat. Du coup, on est monté dans la Batmobile, tout ça. Enfin, et j'ai commencé à enregistrer des sons comme ça avec la Batbox. Et je me suis dit pourquoi pas les retranscrire en notes de musique pour vraiment créer une sorte d'opéra en fait avec d'autres instruments de musique. Du coup, je commence à travailler ça. Et j'ai quelques extraits de Symphonie de Barbastélus ou. voilà, ou solo de Pipistrelle au violon ou à l'orgue surtout. Ça marche très bien.
Ceux-là, il y en a 6 modèles, je crois. 6 modèles de ce
genre. Ouais.
Pas plus, ça tient,
mais
pas plus.
Je t'en prends 5 comme ça.
Hein, c'est bien ?
5.
Oui, ça c'est bon, c'est bon.
Merci. Tu me les mets de côté là ?
Non, je les mets de l'autre côté. Je vous embarque autrement, tu n'en prends pas.
Je l'embarque juste de
l'usine. Ouais. Et là, on a fait ça en aluminium. Et là, c'est sur des vis inox. Parce qu'on a des gens avec qui on travaille, qui sont les Suisses, et qui ne veulent pas de traces de rouille nulle part. Donc, parce que ça, sur un mur ou sur un pont, sur une pile de pont, vous voyez là, le poteau qui est là, ça peut être une pile de pont d'un ouvrage d'art, soit qui passe un train, soit qui passe une route au-dessus. Et donc, là-dessus, ils mettent des giteux. Et il ne faut pas de traces de rouille, parce que qu'est-ce qu'on voit, une tôle qui est fixée au long d'un mur avec une tôle qui rouille, ça fait des traces marron. Ils m'ont dit non, ça, on n'en veut pas. Alors donc, il a fallu... Et puis donc, on est arrivé à l'aluminium et l'inox.
Et je peux vous demander, René, comment vous êtes tombé dans la chauve-souris ? Votre parcours ?
Je suis tombé dans la chauve-souris après... C'est très particulier. C'est suite à un accident de la circulation. Ah, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est arrivé encore ? Il est tombé sur la tête, c'est ça qui l'a décidé, quoi. Non, pas du tout. J'étais ficelé comme un saucisson sur un lit. Et j'avais des infirmières qui m'apportaient le journal, parce que je ne pouvais plus... que lire, quoi, parce que j'avais 16 fractures quand même. J'étais ficelé sur le lit. Voilà. Et puis, je vois un petit article de deuxième mardi soir de chaque mois, réunion, ornithologie, mammalogie et tout ça. Si vous voulez vous spécialiser sur les oiseaux, tout ça, bon. Oh là, j'ai dit, bon, 4 mois après, j'étais un peu rétabli. Je me souviens, la première fois, j'y étais en fauteuil roulant à la réunion. Et puis petit à petit, je me suis mis dans le bouillon, quoi, comme on dit. Parce que je voulais une fois acheter des gîtes. Et les gîtes qu'on me proposait, ben, ça ne me convenait pas. j'ai commencé à dire aux gens, bah oui, mais ça, ça va pas, je voudrais ça comme ci, je voudrais ça comme ça. Et le monsieur m'a dit, bah écoutez, hein, quand vous allez chez Mercedes, vous achetez une Mercedes, quand vous allez chez Citroën, vous achetez une Citroën, vous achetez une 2 chevaux, vous avez une 2 chevaux. Et puis on fait que ça et on ne changera pas. Oh, j'ai dit bon. Et ben, comme je faisais des nichoirs à oiseaux à l'époque, j'ai dit pourquoi pas on va se mettre à faire des nichoirs à chauve-souris. Allez hop, on est parti. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis un peu malade, mais c'est pas.
Et je voulais vous donner aussi la date de réception de la bête. Je l'ai récupérée le 10 novembre.
Je dis ce que j'ai vécu, quoi.
Merci.
Puis s'il y a encore des petites questions à poser, voilà. De toute façon, on est là que... moi, je suis là que le soir. J'ai une permanence téléphonique, c'est tout. Une heure par jour.
Vous faites la SOS chauve-souris une heure par jour?
Non, pas SOS chauve-souris. Enfin, je fais
SOS chauve-souris
dans le machin. Mais autrement, tu vois, le numéro de téléphone, de 20h à 21h.
D'accord.
De 20h à 21h, je suis là.
Et on y est retourné. Il n'y a pas eu de conséquence. On a retrouvé que 10 morts en tout et pour tout. Et toutes les autres bêtes, visiblement, se sont sorties.
Ben, j'en ai
réveillé,
puis ils sont partis. Heureusement, c'était pas le 10 février, il faisait
beau
à ce moment-là.
Ah ben, il faisait pas trop mauvais, mais enfin bon, c'est
quand même
le cœur d'hiver, quoi.
Oui, mais ils étaient réveillés.
Ouais.
Tyrologue.
Là, des quelques courriers que j'ai conservés, il y a un courrier qui vient d'Allemagne pour une autorisation de capture pour une étudiante allemande qui vient cet été. Un truc sur le crapaud qui n'a rien à voir, il faut changer. La quatrième, ah oui, c'est quelqu'un qui fait une exposition qui veut des recettes de cuisine sur les chauves-souris. Ça existe, on en a là.
Vous plaisantez, des recettes de cuisine à base de chauves-souris?
Oui.
T'as pas vu la photo, je vais te la montrer, parce que ça, c'est la fille de Bournay qui vient de m'envoyer son ragoût de chauves-souris au Burkina Faso.
Ouais.
C'est mignon. C'est un témoignage. Voilà.
Oh Seigneur.
Ah, là, là.
Comme vous dites, Seigneur, c'est affreux.
Ah.
Et donc elle a été obligée de le manger. Et elle a fait une photo en pensant à nous, parce qu'elle arrive, c'est un plat pour honorer les étrangers qui arrivent dans le village.
D'accord.
Et donc c'est un joli ptéropus, hein. Ça doit être un truc. Quand on mange bien du lapin, ça fait la même chose, mais on le sert pas avec la tête.
Et puis après est arrivé récemment un certain moustique qui s'appelle le moustique tigre. Et qu'est-ce qui se passe? Le moustique tigre, il saute pas à la gorge, bien sûr, mais quand il pique, il laisse traîner des maladies pas désirables. Donc, le coup du chikungunya. Donc, il y a eu les fameuses attaques de moustiques dans le sud de la France, qui sont quand même assez importantes. On a été contactés. Bah oui, bien sûr, on peut vous faire quelque chose. Donc les chauves-souris, on leur offre le gîte. Elles ont le casse-croûte sur place. Donc, elles mangent à côté, elles viennent loger. Ils les logent gratis. Elles font le ramassage des moustiques. Donc les petites bestioles, bah, si elles veulent manger, il faut qu'elles travaillent. Quand on sait qu'une chauve-souris avale à peu près le tiers de son poids toutes les nuits en insectes, bon, ça fait à peu près 300 moustiques, une pour une. Une colonie de 60, on peut faire le compte. Faites le compte un peu. Il n'y a qu'un moustique qui vous... Donc il y a le casse-croûte, quoi. C'est un peu comme dans la savane, qui c'est qui vient boire? Les gazelles, les lions et les prédateurs.
Quelle chaîne alimentaire.
On se rencontre tous, là, au bistrot. Tout de suite, clac-clac, le McDo du gîte. Prêt à consommer.
Bien, mais c'est à moi ouais. Que revient...
Donc moi je suis Philippe, 26 ans, et je représente l'université de Tirana, donc qui se situe en Albanie, qui est la capitale de l'Albanie, où je fais actuellement une thèse sur les chauves-souris, en Albanie. Moi ce que je vois pour l'Albanie, c'est que le dictateur Hoxha, il a construit des bunkers dans tous les sens, et maintenant c'est une opportunité pour les chauves-souris, parce que ça crée du gîte. Ça crée du gîte où des fois, bien que ce soit quand même une région très montagneuse avec plein de grottes, bah des fois, il n'y a pas le gîte qu'il faut. Et là, dans le bunker, les chauves-souris sont bien, quoi. Et normalement, les gens ne vont pas trop les déranger. Donc,
c'est une histoire terrible, quoi.
Attendez,
c'est assez fou. C'est terrible, ça. C'est une anecdote, quoi. Il y a des gens qui habitent le bord de Loire, à Orléans, qui avaient un pavillon dans le coin d'un bras mort. Il y avait des chauves-souris dans une descente de garage, dans une fissure. Parce que le béton de la maison et le béton de la descente de garage, il y avait une belle fissure.
Et là-dedans, il y avait une 70 chauves-souris. Et un jour, les gens, bah, chauves-souris, ouais, waf. Un jour, ils ont décidé de les cramer au chameau. Quand je construis un truc ou quand je fais un truc, c'est toujours est-ce que les chauves-souris peuvent en profiter? Voilà. La démarche intellectuelle. Bon, c'est peut-être un petit peu maladif hein, de mon côté, mais bon. Quand je pose une planche, je la colle pas sur le mur. Je la mets à 2 cm du mur. De toute façon, ils peuvent se rentrer derrière. Voilà. Ah non, mais bon, les chauves-souris, on parle. Mais le coup des. L'histoire terrible, là, c'est les gens qui l'ont boulotché. Bon, il y en a un qui a foutu le feu dans sa maison, aussi, dans la charpente, il a mis le feu à la maison. Hein.
Pour chasser les chauves-souris.
Bah oui. Parce que des chauves-souris, il y en a sûrement plus d'emmurés dans les façades qu'on pense. Hein. Parce que les gens, ils arrivent là, clac, on bouge tout. Oh, non, tout est propre, le soir. 25 morts derrière. Je suis sûr qu'on démolirait certaines maisons, on chercherait les squelettes là-dedans, il ne devrait rien avoir en masse. Hein. Surtout dans les vieilles maisons.
Elles hibernent, j'imagine qu'elles ne peuvent pas...
Non, dans la journée. Mais dans la journée, qu'est-ce qu'elles font? Une chauve-souris, ça vole la nuit. La journée, elles sont dans les fissures. Hop. Elles entendent du bruit. Elles se reculent encore plus pour être dérangées. Plan, flot. Il lui colle plein de ciment dans la tronche, si j'ose dire. Et c'est fini, c'est bouclé. Terminé, l'affaire est classée. En hibernation. Vous imaginez, quand on a des mineurs qui sont dans les mines, là, qui sont... Ça s'écroule, ils sont murés, on fait tous les trous pour les sauver. Et ben là, on les... Et sans y penser, les gens, hein. C'est les murs. Et je suis sûr qu'il y a une grosse perte d'animaux comme ça qui ont été murés. Certains.
Contrairement aux autres chauves-souris, le vampire peut marcher à terre ou sur ses victimes. Il se meut comme un estropié, bancal des pattes arrière et s'appuyant sur le pouce retourné de ses pattes avant transformées en ailes. Le baiser du vampire. Le vampire suce préalablement l'endroit choisi. Sa salive anesthésie peut-être la chair localement. La victime endormie ne ressentirait alors aucune douleur risquant de la réveiller. Le vampire pratique ensuite une véritable opération après avoir arraché les poils.
En Albanie, on dit l'akulshinat, qui veut dire
d'enlever facilement la chair.
Celles qui sont nues la nuit. Alors bon, je parle un tout petit peu albanais, hein. Je m'excuse s'il y a des albanophones qui m'écoutent, mais le problème c'est que quand j'explique aux gens, parce que des fois je sors de grottes et que j'explique que je travaille sur celles qui sont nues la nuit, ça peut avoir une connotation qui est un peu bizarre. Donc voilà, donc ça a un côté sympa parce que je me retrouve dans des situations où j'échange en albanais, en macédonien un tout petit peu aussi, parce qu'il y a des minorité macédonienne là où je travaille. Et bon, ça finit toujours très bien, il n'y a pas de souci. Les gens, l'expérience que j'en ai, les gens sont toujours très contents de connaître les chauves-souris et ils ont un visage, enfin un regard après complètement différent. Et chaque fois que je repasse dans les villages où je suis allé, ah ouais, les chauves-souris, ouais, on en a vu, et voilà. Le côté Dracula, pas plus que ça, non, je dois avouer, ils ne sont pas plus que ça sur Dracula. Il y en a une qui me fait... Enfin, première fois, j'ai rigolé quand on me l'a dit. C'est des jeunes garçons qui disent que si on brûle une chauve-souris et qu'on balance les cendres sur une fille, elle va tomber amoureuse. On les cloue pas aux portes non plus. Il y a des, je pense qu'il y en a qui s'amusent à un peu avec quand même. J'ai retrouvé 2-3 cadavres des fois qui me paraissent un peu louches. Donc voilà. Mais malheureusement, on fait ça à des choses qu'on connaît pas.
Je suis Virginie, j'ai 41 ans et je suis tombée dans le monde des chauves-souris il y a à peu près 17 ans. Et je suis bénévole à Amikiro, la maison de la chauve-souris à Carnas-Pléden dans le Morbihan. La première sortie, c'était dans une grotte pour comptabiliser les chauves-souris en hibernation. On cherche les chauves-souris, c'est vraiment une chasse au trésor. Et j'ai organisé tous les ans la nuit de la chauve-souris. Et un jour, j'ai eu l'idée de faire un bal des vampires. Donc j'ai pris le virus comme ça.
Ça fait près de 30 ans. Et complètement par hasard, comme les histoires d'amour, ça démarrait sans que je me doute que ça se passerait. Une descente dans un souterrain et la vision d'une bête en léthargie, totalement immobile, comme morte, mais pleine de vie quand même à l'intérieur. Et un grand flash, comme ça, en se disant, tiens, ça a l'air d'être complètement différent. Et personne ne travaillait sur les chauves-souris dans le département du Cher. Et on a commencé petit à petit. Et puis après, on a détourné une rocade. Après, on a fait des livres, des films, etc. Puis au bout d'un moment, maintenant, on fait les rencontres de Bourges et on est 450. C'est pas lié au fait qu'on soit là, qu'on soit 450, mais ces animaux sont quand même très fascinants. Et ceux qui s'y mettent, alors on dit toujours qu'ils ont attrapé le virus après, mais ils lâchent pas. On voit le groupe vieillir et disparaître, plein de jeunes arriver, mais quand on fait de la chauve-souris, c'est rare que les gens arrêtent d'en faire.
Cette nuit-là, tandis qu'il s'enfonçait au cœur de la Transylvanie subcarpatique, le professeur Abronsius ne se doutait pas qu'il était sur le point de voir aboutir les recherches mystérieuses qu'il avait entreprises. Pendant des années, il avait sillonné de long en large tous les pays de l'Europe centrale, accompagné de son seul et fidèle disciple, Alfred. Homme de science d'une vaste érudition, théoricien génial mais hélas méconnu, le professeur Abronsius avait tout abandonné pour se consacrer corps et âme à ce qu'il considérait comme une mission sacrée. Il avait même perdu sa chaire à l'université de Königsberg où pendant longtemps ses collègues l'avaient surnommé le cinglé.
La nuit. Oui, il y a la nuit. Beaucoup de bruits disparaissent. On est dans un cocon et l'être humain travaille essentiellement avec les yeux. Or, on oublie les autres sens. Personnellement, je travaille beaucoup dans les anciennes galeries ardoisières souterraines. Ça suinte, les odeurs sont complètement différentes.
C'est très agréable, ça.
Bonsoir. Soyez les bienvenus, messieurs.
Dans l'autre sens. Ah, ça va pas.
C'est comme ça qu'on se rend compte qu'elles sont en train de reprendre la forme. Elles font des roulements de tambour dans les boîtes, avec les ailes, elles font prrr. Et quand une bête fait ça, ça veut dire qu'elle est bien. C'est-à-dire qu'elle s'est épouillée complètement, puis elle se remet des cailles, on va dire.
Alors, est-ce ça, que vous donnez des noms ou pas
Non, on ne donne pas de nom, mais on a un nom, le même nom pour tous les animaux qu'on recueille, et c'est Kiki. Donc il y a Kiki la chauve-souris, Kiki la sérotine, Kiki l'iguane, enfin tout animal, Kiki le hérisson, voilà.
Elle a bossé pour le labo de l'ANSES. Elle a fait au moins 3 émissions de radio, 2 émissions de télé. Maintenant, là, je crois qu'elle a atteint un stade de retraite très jeune. Parce que là, maintenant, elle ne veut plus bosser. C'est même pas la peine que j'essaye de vous la sortir. Elle court partout. Mais on peut... Enfin, c'est un cas sans espoir au niveau d'image.
Voilà, donc je m'appelle Nicolas. Et je travaille en Belgique, c'est une association qui fait de l'éducation à l'environnement. Et j'ai plongé dans les chauves-souris. Pourquoi ? Parce que nous avons des magnifiques grottes là à Comblain. Et on a un genre de musée de la chauve-souris, et on met même un costume de chauve-souris, on fait apparaître une chauve-souris derrière un drap.
Catherine, 42 ans, je suis tombée dans la chauve-souris, si on peut dire, en fait, moi, en fait, c'est pas très sexy, c'est parce que j'ai trouvé un boulot dans la chauve-souris, quoi. C'est pas hyper sexy.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital, c'est palpitant.
La chauve-souris la plus grande, parce que là vous avez une grosse, parce que c'est tout petit les pipistrelles. Oh, j'ai pas pris mes lunettes, je les ai laissées chez Laurent. J'essaie de vous trouver ça, mais là je suis quasiment aveugle. Donc il faut aller chercher des lunettes, là je vais pas trouver comme ça.
Si je peux vous aider, je sais pas si c'est marqué.
C'est les plus petits pour rien qu'on puisse trouver.
Oui, il est marqué déjà là.
Ah, on dirait bien qu'il y a écrit pipistrelle.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est la petite chauve-souris qu'on trouve très couramment.
Ah oui, elle est minuscule.
Voilà. C'est de la taille d'un pouce, on va dire, en général. Voilà.
La première fois où on est allé voir une chauve-souris en hibernation, on ne savait même pas reconnaître où était la tête ou l'arrière. C'était vraiment... on a appris ici, à Bourges. Donc c'est comme ça qu'on a commencé, et en fait c'est aller au-delà de notre simple plaisir d'étudier les chauves-souris avec le détournement de la rocade de Bourges. On a fait un détournement de la rocade pour garder un site d'hibernation à chauves-souris qui est d'importance européenne, et en fait ça a commencé par TF1 qui est venu, PPDA qui voulait voir des chauves-souris, etc. Après Canal+, après France 3, après on nous a demandé d'écrire un livre, de faire un film. Et c'est comme ça que Bourges est devenu un site où on parle des chauves-souris régulièrement et où les chiroptérologues reviennent régulièrement.
Pourquoi la chauve-souris ? Non, ça permet de voir vraiment voir autre chose en fait.
Alors, ce sont des espèces qui disparaissent, que l'on n'arriverait pas à protéger parce que difficilement... on va dire vendable, parce que ça passe pas. Le crapaud, qu'est-ce que le crapaud, vous allez le vendre facilement, ça se vend pas. Avant ça, on ne vendait pas du chiro. C'était mal vendu parce qu'il y avait tous les fantasmes anglo-saxons, Batman et Dracula et tout ceci. Le crapaud, vous allez avoir du mal à le sortir. Vous n'allez pas trouver du chiro en bourse. Vous n'allez pas trouver du crapaud en bourse.
Voilà, dans les grottes l'hiver, on fait par exemple un grand site d'hibernation qu'on a découvert il y a 2 ans, avec donc une cavité majeure pour le petit rhinolophe. On est à plus de 1300 individus, donc une cavité qui ne serait pas connue avec une telle effectif en France. Donc, moi, je travaille beaucoup sur le SOS chauve-souris pour pouvoir permettre une meilleure cohabitation avec les chauve-souris.
La passion, elle est tout le temps animée, et voilà, on ne décolle plus, quoi. Après, on est totalement accro, et c'est pour ça que voilà, ça ne fait que s'amplifier. C'est vrai que dès qu'on est en contact avec ce qu'on appelle les bestioles, on les appelle comme ça, quoi. Il y a une attractivité, c'est presque irrationnel, quoi. Et puis on en démord plus.
J'y ai mis les mains, comme on dit. Ouais. Donc voilà la vie d'un mec qui s'occupe des chauves-souris.
Moi, c'est la première fois que je suis là, donc petit à petit, en mettant les pieds dedans, cette passion s'est développée.
C'est votre baptême chauve-souris.
C'est ça, exactement. Ouais.
Les chauves-souris, les centres de soins, c'est très dur à retaper. C'est très fragile au niveau des... très peu ossifié au niveau des membres. Donc quand elles sont blessées, très souvent, ça finit mal.
Comme ça, tu vas peut-être le choper, ton verre.
Maintenant, l'on sait plus, mais l'on a oublié...
C'est marrant, elle n'a plus l'habitude.
où l'on est aveuglé par la technologie ou par la vie économique. On est aveuglé, on ne voit pas que l'on est en fait complètement dépendant d'un lombric, d'une chausserie, de plantes et d'animaux dont les gens ne connaissent même pas le nom, donc pas l'existence.
C'est pas une vie de chauve-souris, ça, d'être dans une boîte.
Non, c'est sûr.
Ça fait penser aussi au problème des prisons.
Voilà, il y a des bêtes qui craquent, qui se réveillent dans leur boîte et qui essayent désespérément de s'en échapper et n'ont pas de réserve. Donc elles tournent, elles s'épuisent et puis elles finissent par mourir. Mais celle-ci, ça fait 3 ans qu'on l'a, elle sait que tant qu'elle est au frais et qu'on ne fait pas les petits bruits, c'est pas la peine de chercher à manger, il n'y a rien. Et comme elle a appris, mais elle n'est pas casse-pieds. C'est la plus sympa qu'on ait eue depuis 20 ans.
Et la grande noctule, avoir une chauve-souris de 50 cm d'envergure sur soi, c'est vrai que ça nous fait un beau sentiment.
D'accord.
Mais j'étais son dernier soigneur, après elle a pu repartir. Donc moi, je l'avais entre le muséum et la maison. Le soir, je la ramenais à la maison. Et comme elle ne voulait pas voler, je l'accrochais à un cadre. Et elle était avec nous dans la pièce, elle nous regardait... nous activer, éventuellement elle tournait la tête vers la télé. Enfin bon, c'est vraiment quelqu'un. Je vais le dire, quelqu'un d'ailleurs. C'est là où on sent bien le sentiment qu'on a pour ces animaux, quoi. Et puis un jour, on est allé dans la salle de vol. Je l'avais posée à un bout de la salle, puis elle ne voulait toujours pas voler. Et je suis allée à l'autre bout de la salle et j'ai parlé avec Laurent. Et à ce moment-là, elle a décollé pour venir se poser sur moi. Elle a reconnu ma voix et c'est comme ça qu'elle s'est remise à voler pour venir me rejoindre. Et ensuite, il a fallu qu'on la relâche. Et on avait posé son nichoir à l'extérieur, et le soir, j'ai ouvert, et puis elle voulait pas partir. Elle voulait toujours pas s'en aller. Elle me regardait, puis elle partait pas. Et un autre soir, j'ai carrément cassé le nichoir pour qu'elle soit plus du tout à l'abri. Et à un moment, je l'ai vu qu'elle a commencé à se décoller de la paroi. Elle a émis, elle s'est tournée vers moi en émettant ses ultrasons, et puis elle est partie, enfin.
Je suis artiste animalier, donc je suis dans le milieu de la chauve-souris depuis 1997, suite à une exposition américaine qu'il y a eu lieu au muséum. Donc Michel et Laurent, donc les conservateurs du muséum, devaient faire une exposition d'accompagnement, mais à l'époque ils n'avaient que des photos et des posters, donc ils devaient faire du volume. Donc j'aurais proposé de faire des sculptures de chauve-souris en 3D, donc ils ont été partants. Donc, ce qui fait que j'ai commencé à faire mes premières chauves-souris à ce moment-là. Quoi.
Vous ne faites plus que de la chauve-souris ?
Ah non. Enfin, au départ, je faisais que de la chauve-souris. Mais là, ça commence à évoluer parce que les muséums demandent des fois des choses un peu folles. Quoi. Donc, des invertébrés marins, des bébés hippopotames. Encore c'est raisonnable. Mais les invertébrés marins, c'est... Par exemple, là, j'ai un projet pour faire des moules d'eau douce. Donc, c'est déjà complètement différent des chauves-souris, mais... Moi, comme je suis amoureux des animaux en général, voilà, je suis prêt à tout.
Ils ne vous donnent pas de spécimens en vrai, enfin naturalisés ou...
Ben non, parce que...
Justement, il n'y a pas, c'est pour ça que...
Non, ben déjà, il n'y a pas. Ils n'ont pas le droit déjà de... Ne serait-ce que de m'expédier des spécimens pour que je puisse les étudier après, parce que bon, il faut une autorisation préfectorale à chaque fois pour... expédié. Mais que ce soit une chauve-souris ou n'importe lequel animal.
Même naturalisé. Vous ne pouvez pas l'envoyer par chronopost ou par transporteur.
Même chez vous, par exemple, si vous avez vous trouvez un oiseau blessé et tout ça, il faut toujours téléphoner à la gendarmerie. Parce que si vous vous faites arrêter par la gendarmerie et que vous avez un animal sauvage dans un carton, dans la loi c'est écrit, on n'a pas le droit.
Les gendarmes sont formés par exemple à ça pour...
Ah ça je sais pas.
Est-ce qu'il y a eu des cas déjà d'arrestation de...
Ça, je ne sais pas, mais je sais que par exemple, les pompiers, ils ont des formations. Même maintenant, dans les grandes villes, ils ont des formations pour capturer les serpents, les crocodiles. On ne parle même pas des égouts de Paris, hein, où les pompiers, justement, ont des formations pour capturer ces animaux. Parce qu'apparemment, dans les égouts de Paris, il y a des serpents, des crocodiles. Oui, parce que c'est des gens qui les... soit c'est des bêtes qui s'échappent, soit c'est encore... parce que, bon... Quand on habite dans un HLM, le crocodile qui s'échappe de son vivarium dans l'appartement, je veux bien, mais qui sort de la porte, qui prenne l'ascenseur et tout ça, ça fait un peu peur. Imaginez que ce genre d'animal s'échappe. Les animaux, je les aime bien, mais je me tomberais nez à nez avec un anaconda au milieu de la route, 2 mètres, 2 mètres 50, ça me ferait peut-être quand même un drôle d'effet, quoi. C'est... Enfin, je pense quand même. C'est pas le genre de bête qu'on a l'habitude de voir chez nous. Mais ça peut faire du dégât quand même, je pense. Ne serait-ce que sur les enfants, quand même, c'est... Après, c'est... Pas un film d'horreur, mais presque, ouais, ça peut...
Cette nuit-là, fuyant la Transylvanie subcarpatique, le professeur Abronsius ne se doutait pas qu'il transportait dans son traîneau un couple de ces créatures maléfiques.
Belle de nuit, une tragicomédie radiophonique de Pauline Horowitz. Réalisation Angélique Thibault, prise de son Olivia Branger et Mariam Gourmaktig, mixage Alain Joubert et Léa Le Foll, coordination Inès De Bruyne et Alice Ramon. Avec la participation de Laurent Arthur, directeur adjoint du Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges, René Boulet, président de l'association Faune et Espace, Catherine Caroff, chargée de mission au groupe mammalogique breton, Morgane Charbonnier, doctorant en bioacoustique à Sibério, Jean-Yves Courtois, président du groupe Chiroptère Corse, Virginie Kouliki, animatrice à Amikiro, la maison de la chauve-souris dans le Morbihan, Émilie Gilson, étudiante à l'école des Beaux-Arts de Bourges, Xavier Grémillet, loutrologue, président du groupe mammalogique breton, Véronique Hénoux, membre du groupe Chiroptère Provence, Nicolas Klinglet, animateur à l'association Les Découvertes de Comblain au Pont, Kathleen Lajoie, chargée de communication à Chauve-Souris Auvergne, Michèle Lemaire, directrice du Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges, Guy Lerest, agent patrimonial à l'Office National des Forêts et membre du groupe mammalogique breton, Grégoire Loïs, responsable de Viginature au Muséum de Bourges, Didier Mohuari, ingénieur en acoustique, directeur de Sibério, Yvonne Chacheduc, spécialiste des soins aux chauves-souris, disparue en 2009, à qui cet atelier est dédié, Philippe Théou, doctorant en biologie à l'université de Tirana, Ludovic Thomas, chiroptérologue plasticien, et de tous les participants des 15e rencontres nationales chauves-souris de la Société française d'études et de protection des mammifères qui ont eu lieu à Bourges les 14-16 mars 2014. Aucune chauve-souris et aucun chiroptérologue n'ont été maltraités pendant le tournage.
Vous pouvez rester en compagnie des chauves-souris et podcaster « Belle de nuit », la tragicomédie radiophonique de Pauline Horowitz sur le site internet de France Culture. Demain soir, dans l'atelier du son, Thomas Baumgartner sera en compagnie de Christine Gros, compositrice électroacoustique et professeure qui aime avant tout transmettre. En attendant, il sera bientôt minuit, vous écoutez France Culture et dans un instant, vous retrouverez l'éloge du savoir avec Christine Goémé.